Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, sixième cassette, deuxième face, page 245. Suite et fin du temps du sacrifice. Passèrent encore 100 journées tranquilles. Un beau jour, vers midi, comme des oiseaux au plus haut du ciel éventaient à grands coups d'ailes la face ronde du soleil, le chien errant revint, la langue à ras de terre. Il s'arrêta au bord de l'ombre où le berger somnolait près de son compagnon et dit tout essoufflé, « Hé, salut, chien de l'homme !»«
Frère, que me veux-tu ? » ?»«
Du bien, ami, du bien. Ce soir au crépuscule, je viendrai te chercher. J'aimerais te chanter un chant que j'ai appris. Les paroles sont roses et la musique jaune.
« Hélas !» lui dit le chien de l'homme. « Ce soir, mon maître meurt. Je ne peux le quitter. »
Le berger, effaré, se dressa d'un bond, courut au chien errant et revint aussi vite, s'agenouilla sur l'herbe, implora le ciel bleu, joignit enfin les mains devant sa bête amie. « Mon chien, toi qui sais tout, dis-moi, dis-moi, que faire pour éviter la mort ?»«
Rien, » répondit le chien.
« Comment rien ?» rugit l'autre. « Tu m'as sauvé deux fois. Tu ne peux maintenant me laisser sans secours. »«
Homme, » lui dit le chien, « je t'ai donné deux fois l'occasion de payer le prix d'un long séjour sur terre. La première fois, tu as refusé d'offrir ta maison et tes biens aux flammes de la foudre. La deuxième fois, tu n'as pas voulu que les hyènes dévorent tes bœufs et tes moutons. L'un ou l'autre de ces sacrifices t'aurait valu 100 années de vie heureuse. Hélas, cette nuit, je te pleurerai. » Peu avant minuit, le berger mourut. Son chien près de lui leva le museau vers la lune pleine. « Ô lune, dit-il, pourquoi les humains ne savent-ils pas baisser le front ? Pourquoi ne savent-ils pas que les malédictions de la cave, pour celui qui les accueille sans effroi, sont toujours les bénédictions du grenier. S'ils savaient, ils vivraient. » Ti-tête et ti-corps. Ti, trait d'union, te, accent circonflexe, te, et ti-corps, ti, trait d'union, corps. Un jeune bûcheron marchait dans la forêt. Il était beau, content. Il aimait les jeux du soleil à travers les feuillages. Un serpent traversa le sentier à trois pas devant lui. Il était énorme. Son corps était rouge et vert. Le garçon s'avança, leva sa hache, le trancha en deux et reprit son chemin sous les arbres. De la tête du serpent mort, une fille sortit. Du corps rouge et vert naquit un homme. Il parut étonné de se trouver au monde. La fille courut après le jeune bûcheron, mit la main dans la sienne et lui fit l'œil de miel. L'autre la trouva belle. Il la prit donc pour femme. On l'appela Ti-tête. L'homme né du corps rouge et vert fut appelé Ti-corps. Il s'en alla tout seul. Ti-tête fut heureuse avec son bûcheron. Ils eurent 8 enfants. Après 19 années, naquirent 20 petits-fils. Après 25 années, 20 petites filles. Ti-tête en fut très fier. Ti-corps, lui, ne trouva nulle part le bonheur. Il se fit vagabond. Il mendia son pain sur les chemins. Il mendia l'amour, parfois, devant les portes. Sa récolte fut maigre. Il vécut pourtant sans douleur excessive, car le Créateur lui avait fait don d'une voix magnifique. En vérité, ses chants étaient si captivants que les gens, longtemps après qu'il fut parti, osaient à peine respirer. Donc, en ces temps anciens, Ti-tête était grand-mère et Ti-corps la cherchait partout dans le pays. À l'entrée des villages, il disait aux enfants, « Il y a 30 ans, elle était faite ainsi. L'avez-vous rencontrée ?» On riait de lui, on lui lançait des bouses. Il allait plus loin. Il disait encore, « Son nom était Ti-tête. Un jour, elle a suivi un jeune bûcheron. Parfois, on le plaignait. On lui répondait « Va voir à la ville voisine ». Un soir, comme il chantait tout seul, assis contre un vieux mur, « Titette, où est Titette? Où s'est perdue Titette ?» Quelqu'un lui dit « Elle a 8 enfants. Ses petits-enfants peuplent notre village. Je suis le 40e. Ma grand-mère est la plus aimée des femmes de ce monde. » Ticor entra dans ce village. Sous l'arbre de la place, il s'assit et se mit à chanter. C'était un chant inconnu des hommes, même des plus anciens. Tous l'écoutèrent, les femmes, les enfants et les oiseaux aussi dans les feuillages. Même les chiens se turent. Titette, dans sa maison, s'enfonça du coton mouillé dans les oreilles. « Grand-mère, que fais-tu ? » lui dit son petit-fils, le dernier, le plus beau, couché contre sa hanche. Elle lui répondit « Parle, mon petit, parle, fais du bruit, pleure fort !» Toute la nuit, Ticor chanta. Quand le jour se leva, il se tut au milieu d'une phrase. L'assemblée écouta le silence du petit matin. Alors, une autre voix, limpide, haute, ferme, reprit le chant perdu dans l'aube naissance. « Grand-mère, dit l'enfant dans la maison ouverte, qui t'a appris ces mots ? Je ne les comprends pas. Tu ne nous as jamais chanté cette musique. J'ai peur d'elle. Pourquoi ? » Titette ne répondit rien. Elle sortit devant sa porte et s'avança vers la place, sans cesser de chanter. Alors, Ticor se leva et tous deux s'en allèrent dans la brousse. Personne n'osa les suivre. Quand ils furent à l'abri de tout regard, ils se couchèrent sur la terre et ne furent plus Titette ni Ticor, mais un seul serpent rouge et vert qui disparut dans le secret des arbres. Il en fut ainsi. Et rien n'aurait pu faire qu'il en fût autrement, car aussi éloignés que soient les êtres, aucun obstacle ne peut les séparer pour toujours s'ils sont faits pour aller ensemble dans le secret des herbes. Ogoa, O-G-O-A. Avant que l'homme soit, sur terre n'était rien qu'un arbre haut et fort au milieu d'une plaine. De gros nuages vinrent un matin sur cet arbre. Le tonnerre gronda, l'éclair fendit le ciel. Alors, par cette fente, descendit une table, une chaise, une pierre céleste, et descendit aussi la mère, Voyengi, W-O-Y-E-N-G-I. Sur la chaise, elle s'assit. Sur la pierre céleste, elle posa les pieds. Sur la table, elle mit de l'argile mouillée, et de cette argile, elle pétrit les humains. Elle souffla sur eux. Ils se firent vivants. À chacun d'eux, elle dit, « Tu peux être une femme ou un homme, choisis. » Chacun choisit. Puis, à chaque homme, à chaque femme, un par un, elle demanda quelle sorte de vie, de biens et de malheurs ils désiraient avoir. L'un voulut la richesse, et l'autre des enfants, et l'autre une vie brève, et l'autre une vie longue, et tous, parmi les maux qui affligeaient la terre, choisirent aussi leur chagrin. À chacun, elle dit, ce que tu veux sera. Parmi les gens que créa Voyengi, étaient deux femmes presque sœurs tant elles étaient amies. L'une avait désiré des enfants forts et riches, l'autre n'avait rien voulu de ce qui fait le bonheur ordinaire des femmes. Elle avait demandé de grands pouvoirs magiques. Ogoa était son nom. Dans le même village et la même ruelle, les deux filles grandirent, puis l'une eut un garçon, deux filles, un fils encore. Ogoa fut pour eux une bonne marraine. Elle était devenue célèbre et redoutée. Elle savait guérir, elle savait tuer. Elle comprenait tout du langage des bêtes et lisait les pensées des gens, même lointains. Pourtant, elle était triste. Elle aimait ses filleuls, elle veillait sur eux, mais elle aurait voulu des enfants bien à elle. Or, elle n'en avait pas, et son cœur lui pesait. Alors, elle décida de retourner auprès de Voyengi pour qu'elle la recrée et change son destin. Elle mit dans un sac ses secrets, ses pouvoirs, ses magies invincibles, et sur le chemin droit, un jour, elle s'en alla. Elle voyagea longtemps, traversa la savane, parvint à la forêt, s'enfonça droit parmi les buissons, les broussailles. Sur ce pays feuillu régnait un roi puissant, Izambi, T-I-S-E-M-B-I, l'homme vert. Un soir, comme elle cheminait dans l'ombre du sous-bois, elle entendit marcher pesamment derrière elle. Elle se retourna. Elle vit venir Izambi. Il lui dit « Es-tu cet Ogoa dont on parle partout ?» Elle lui répondit « Il n'y a qu'une Ogoa, et je suis celle-là. Viens donc jusque chez moi, tu es mon invité. » Ils s'en furent ensemble, burent du vin de palme et mangèrent des lièvres. Izambi demanda « Où vas-tu, Ogoa ? Ce chemin que tu suis ne conduit nulle part. » Ogoa répondit « Vois, je suis une femme, je voudrais des enfants, je vais voir Voyenji pour qu'elle me recrée et change mon destin. »« Tu voyages pour rien, aucun être ici-bas ne peut voir Voyenji. »« J'ai des pouvoirs puissants. » »« Ils ne suffiront pas. Veux-tu les éprouver ? Ils valent bien les tiens. » Izambi répondit. « Allons dans la clairière et mesurons nos forces. » Ils allèrent dans la clairière. Sous le soleil mouvant au travers des feuillages, Izambi récita ses formules majeures et le sac de Goa aussitôt se vida. Ses pouvoirs, ses secrets, ses magies s'envolèrent comme fumées au vent. À son tour, Ogoa dit ses incantations, tourna sur l'herbe tendre. Ses pouvoirs, ses secrets, ses magies lui revinrent. Encore elle invoqua les puissances obscures. Les pouvoirs, les secrets, les magies d'Izambi vinrent avec les siens. Encore elle tourna, les bras ouverts sur l'herbe. Izambi tomba mort. Elle reprit son sac et le mit à l'épaule. Comme elle s'en allait, la femme d'Izambi la retint par le bras. « Rends sa vie à mon homme, tu l'as prise pour rien. »« Femme, je la lui rends, » répondit Ogoa. Elle toucha son front. Izambi s'éveilla. Ogoa reprit sa route. Cheminant sans repos, elle arriva bientôt dans la ville d'Egbe, E-G-B-E, accent aigu. Là était une case ornée comme un palais. Au seuil de cette case, un homme se tenait. Comme elle traversait la place en grande hâte, il lui dit « Es-tu cet Ogoa dont on parle partout ?» Elle lui répondit « Il n'y a qu'une Ogoa, et je suis celle-là. » « Je suis Egbe, le roi d'ici. Le bruit de tes pouvoirs est venu jusqu'à moi. Tu es mon invité. » Sur des nattes d'osier, on lui servit du vin et du rôti d'antilope. À la fin du festin, Egbe lui demanda « Où vas-tu, Ogoa ? » « J'aimerais que mon ventre gonfle et qu'il enfante. J'aimerais allaiter, j'aimerais être mère. Je vais voir Voyenji pour qu'elle me recrée. » « Aucun vivant jamais n'a pu voir Voyenji, lui dit le roi Egbe. Seuls le peuvent les morts qui reviennent à elle. Tu voyages pour rien. » Elle lui répondit qu'il parlait comme un homme au cœur pauvre et peureux. Elle le défia. Il se mit en colère. Dans la cour où le vent rugissait, ils sortirent. Egbe dit ses formules et ses incantations. Et le sac de Goa, vidé de ses pouvoirs, s'affaissa comme une outre flasque. À son tour, Ogoa chanta, tournoya dans la poussière soulevée, et son sac à nouveau se gonfla, s'alourdit. Ses pouvoirs lui revinrent avec ceux d'Izambi, avec ceux aussi d'Egbe, et Egbe tomba mort. Son épouse accourut, hurlant les bras au ciel. « Femme, sèche tes pleurs, » lui dit la voyageuse. Elle toucha le front d'Egbe. Il s'éveilla. Ogoa, cheminant au-delà de la ville, arriva sur la plage, au bord de l'océan. Elle s'avança dans les vagues. Alors elle entendit une voix forte et rude, et cette voix lui dit « Moi, le vaste océan, j'avale qui m'affronte ?» Elle lui répondit « Je suis seule en ce monde. Ogoa sans enfant, c'est ainsi qu'on m'appelle. Je vais voir Voyenji, et il faut que je passe. » L'eau lui vint aux chevilles, aux genoux, à la taille. Elle marcha pourtant, sans souci pour sa vie. L'eau lui vint jusqu'au sein. Encore elle avança, pensant « Je vais mourir », appelant dans son cœur les enfants qu'elle n'avait pas eus. L'eau lui vint au menton. Alors elle cria « Vaste océan, écoute !» Puissamment, sur les vagues, elle chanta ses chants secrets. La mer se retira, revint à la ceinture et revint aux genoux. entre deux murs d'eau grise, parut un chemin sec. Et par ce chemin sec, elle parvint à terre, au-delà de la mer. Là n'était aucun homme. Un seul être habitait dans ce royaume nu. C'était le dieu Ada, A-D-A. Il vit venir de loin Ogoa sur la plaine. Il s'avança vers elle. « Es-tu cet Ogoa dont on parle partout ?» Elle lui répondit, « Il n'y a qu'une Ogoa, et je suis celle-là. » Il lui tendit la main, l'amena dans sa case, lui offrit un festin de viande délicieuse. « Que viens-tu faire ici ?» demanda-t-il enfin. « Jamais aucun humain n'a foulé cette terre. »« Je veux voir Voyenji, notre première mère. » « Retourne-t'en chez toi, personne ne peut voir Voyenji, ni toi, ni moi, personne. »« Un grand désir me tient, mettre un enfant au monde. Si tu veux m'empêcher de suivre mon chemin, ce désir t'abattra. » Ada pensa, surpris. « Quelle est donc cette femme qui veut se mesurer à la force d'un dieu ?» Ogoa dit encore. « As-tu peur, dieu Ada ?» Ils allèrent aussitôt sur la plaine déserte. Par la force du dieu, la tête d'Ogoa fut d'un coup arrachée et monta dans le ciel comme une boule d'herbe au vent tourbillonnant. Mais son corps resta droit, semblable à un tronc d'arbre sur l'herbe rase. Et la tête emportée bientôt redescendit, à nouveau se planta sur le cou à sa place. Alors la voix d'Ogoa retentit dans l'air bleu et la tête du dieu quitta ses épaules puissantes. Comme elle s'élevait, le chant noir d'Ogoa se fit plus rude encore. Le corps du dieu Ada chancela, s'affaissa. La tête revenue roula dans la poussière. Tous les pouvoirs du dieu s'enfuirent de son corps, entrèrent un à un dans le sac d'Ogoa, et Ogoa s'en fut, courbé sous le fardeau de ses magies conquises. Sans repos, elle voyagea jusqu'au dernier rocher de la plaine. Là se tenait un coq. Il dit à Ogoa, tu n'iras pas plus loin. J'irai, répondit-elle, je veux voir Voyenji. Le coq lui répondit, au-delà de ce roc, il n'est plus de pays. Je garde la frontière entre les deux royaumes, celui du tout, celui du rien. Femme, retourne-t'en. Personne ne peut voir Voyenji, notre mère. Ogoa se tint droite et ne répondit pas. L'incantation lui jaillit soudain de la gorge. Alors le roc prit feu, et le coq sur le roc s'embrasa lui aussi. Il ne fut bientôt que fumée vite enfuie. Dès que cette fumée fut dissipée, Ogoa découvrit devant elle un grand champ. Au milieu de ce champ était un arbre haut et fort. Elle marcha jusqu'à lui, et se dissimula entre ses racines, pareilles à d'énormes serpents. Elle attendit 5 jours. Alors, elle vit le ciel se couvrir de nuages. Le tonnerre gronda, l'éclair fendit l'espace. Par la fente, elle vit une table descendre, elle vit une chaise, une pierre céleste. Elle vit Voyenji descendre aussi du ciel. Elle la vit pétrir des humains sur la table, et les faire hommes et femmes, et les pousser chacun sur son chemin de vie. Quand la table fut vide, elle l'épousta et la lança en l'air au-delà des nuages avec sa chaise et la pierre céleste. Puis elle vint à l'arbre. Elle dit doucement, « Ma fille, tu te caches et pourtant je te vois. » Ogoa se dressa. Voyenji dit encore, « Je connais ton désir. J'ai suivi ton voyage. Je sais aussi comment tu as vaincu tous ceux que tu as rencontrés. Quand j'ai pétri ta vie, tu n'as voulu rien d'autre que des pouvoirs magiques. Je te les ai donnés. Maintenant, tu veux voir ton ventre s'arrondir. Tu souffres sans enfant. Hélas, tu as choisi aussi cette souffrance. Veux-tu me défier? C'est moi qui ai créé ta force et ta faiblesse. Le coq, le dieu Ada, Egbe et Izambi tenait aussi de moi ce que tu leur as pris. Ogoa, ma petite, rends à chacun son bien. » À peine ces paroles dites, chacun de ces vaincus retrouva ses pouvoirs. Voyenji disparut. Ogoa s'en alla avec sa peine lourde, son désir infini. Elle marcha longtemps, sans savoir où se perdre, puis un jour elle se réfugia dans les yeux d'une femme. Le bonheur la chassa. Alors, de femme en femme, elle se mit à errer, sans cesse renaissante et sans cesse vaincue. Ainsi vécut-elle. Ainsi elle vit encore. Quand une femme vous regarde avec la soif d'aimer, sans savoir qui aimer, qui vous regarde ? Homme, c'est Ogoa. Ogoa l'a perdue. La passion du marabout. C'était un marabout. Il avait 15 élèves. Il leur apprenait tous les jours l'algèbre, le Coran et la philosophie. Un matin, à l'heure de la pause, comme les écoliers sortaient à grand bruit de la salle, le plus petit d'entre eux joignit les mains dans un coin et dit comme à son habitude, « Dieu nous garde de la passion. » Le maître, pour la première fois, rentra chez lui pensif. Il demeura silencieux tout au long du repas que lui servit sa femme, puis enfin demanda « Mon épouse, dis-moi, qu'est-ce que la passion ?» Elle lui répondit « Tu l'ignores ?»« Je n'en ai pas, dit-il, la moindre idée. Mon vénéré mari, tu es sage et savant, tu as lu tous les livres, les hommes du pays te respectent. Si toi, tu ne sais pas ce que passion veut dire, comment moi, pauvre femme ignorante, pourrais-je le savoir ? » Le marabout se tut. Il s'en alla au lit. Le lendemain matin, sa femme lui parut boudeuse. Il lui dit « Quel beau jour !» Elle le regarda l'œil noir. Il la prit dans ses bras. Elle se défit de lui en grognant. Il lui dit encore « As-tu mal dormi ?» « Je suis triste, répondit-elle, tu te soucies de moi comme d'un crottin d'âne. Lumière de mon œil, ma bien-aimée, ma gazelle, comment peux-tu parler ainsi ? Que te manque-t-il pour que tu sois heureuse ? » ?»« J'aimerais avoir un chien. » »«
Un chien ? C'est impossible, gémit le marabout. Un chien dans la maison d'un savant tel que moi, voilà qui serait incongru, comme un furoncle au bout du nez. Un lettré convenable n'a pas chez lui de bête. »
« Tu ne m'aimes plus, » lui répondit sa femme en tamponnant ses yeux du coin de son mouchoir. « Je m'en doutais, je ne resterai pas un jour de plus ici. »
Elle frappa le sol du talon et marcha noblement vers la porte. Le marabout resta un moment bouche ouverte, puis le cœur lui manqua. « Seigneur, se dit-il, ma bien-aimée s'en va, elle quitte la maison. Comment vivre sans elle ? Je deviens fou, je tombe dans un gouffre. » Il hurla, « Femme, ne pleure plus !» Que veux-tu ? Trois chiens, deux chiens, un chien, un beau chien, tu l'auras ! Il courut à l'école. La mine embarrassée, il dit à ses élèves, « Si quelqu'un a chez lui des chiots, j'en veux un. » On le considéra d'un œil réprobateur. La sueur de la honte lui vint au front, mais il se tint digne. Tout au long du jour, il fut triste et rogneux. Le soir même, son épouse eut un petit chien noir. Trois matins passèrent. Elle se reprit à geindre. Son mari, l'œil tout doux, la caressa, lui dit « De quoi souffres-tu, ma perdrix dorée ?»«
De rien, répondit-elle, va-t'en, tu m'ennuies. Quand je te vois fâchée, j'en ai le cœur qui tombe. Que puis-je t'offrir qui te fasse plaisir ?»« Rien, dit-elle. Je voudrais simplement que tu tranches le cou de mon chien. » « Mais tu ne le veux pas, je le vois bien. »
Le marabout leva les bras au ciel et glapit grimaçant. « Horrible, affreux, abject ! Égorger un chiot, moi, de ma propre main, me prends-tu pour un boucher ?»« Suffit, » gronda sa femme, « puisque je suis horrible, affreux, abject, je n'encombrerai plus longtemps ta maison. Tu peux dès aujourd'hui chercher une esclave nouvelle. Ne compte plus sur moi, je rends mon tablier. »
Elle le dénoua et le jeta en boule aux pieds de son mari. Le marabout poussa un hurlement d'agonie.
« Reste, reste !» dit-il, les mains tout à coup égarées. « Je plaisantais. Tuer un petit chien, simple formalité. » Il retroussa ses manches, prit un marteau, le laissa tomber sur ses orteils, cassa trois bols et quatre tasses à chercher un couteau, en trouva un, faillit s'éborgner, prit le chien par la nuque et, le cœur chaviré, le cloua sur la table.
« Merci, » lui dit sa femme. La bête fut bientôt mise à cuire. Au soir, quand il revint de l'école, elle posa devant lui la cuisse du chiot dans une assiette creuse.
« Je n'en mangerai pas, » lui dit-il d'un ton ferme. « Femme, n'insiste pas, c'est non. D'ailleurs, j'ai l'estomac noué. »
Elle ne répondit rien. Elle quitta la table, ramassa bruyamment ses affaires, les fourra dans un sac et chaussa ses souliers.
« C'est bon, » dit-il enfin dans un sanglot lamentable. « Remets tes sandales et dis non, s'il te plaît. »
Elle sourit enfin, prit l'assiette, sortit et la jeta, courut à la cuisine, revint avec un plat de poulet aux épices, s'agenouilla devant son époux, prit ses mains, les baisa et lui dit doucement « C'est cela qu'on appelle passion. » Le marabout sourit aussi, hocha la tête. « C'est vrai, femme. » Que Dieu nous garde d'elle. Le lendemain, à l'heure de la pause, tandis que les enfants sortaient à grand bruit de la classe, il vint au plus petit de ses 15 écoliers. Tous deux dans un coin se recueillirent. L'enfant fit sa demande habituelle à Dieu. Son maître murmura : Ainsi soit-il, petit. Quand il revint chez lui au bout de la journée, il regarda son épouse d'un œil neuf. C'est une carne, se dit-il. Je la déteste. Il lui souhaita le bonsoir avec une gaieté féroce. Le conte des échanges, conte C-O-N-T-E, bien sûr. Une femme avait deux garçons. Un jour, elle alla ramasser du bois. Elle s'en revint avec un fagot sur la tête. En haut de ce fagot étaient deux oiseaux rouges. Ils s'étaient posés là, leurs pattes s'étaient prises dans l'enchevêtrement des branches. La mère à ses enfants donne à l'un, donne à l'autre. L'aîné dit « Mon ventre gargouille, je vais le plumer, le retire. Mère, allume le feu. » « Moi, dit le cadet, je garde le mien. Je vais l'échanger. »
« Frère, contre quoi ?»«
La fille d'un chef. »
La fille d'un chef contre un oiseau rouge. Frère, tu perds la raison.
Tant mieux et tant pis. Adieu, frère aîné. Adieu, ma mère. Il prit son oiseau et s'en alla. Au premier village, il vit des enfants qui jouaient devant une forge.
Garçon, donne-nous ton oiseau rouge.
Ami, le voici. Les enfants prirent la volaille, lui tordirent le cou, la firent griller. Le garçon s'assit dans la poussière et se mit à pleurer.
« Rendez-moi l'oiseau de ma mère. Tais-toi, lui dirent les autres, nous te donnerons un couteau. »
Le garçon s'en fut avec son couteau. Il arriva bientôt au bord d'un étang. Là étaient des gens, accroupis à quatre pattes comme des chiens. Ils étaient occupés à trancher des bambous à coups de dents. Ils grognaient, geignaient, mordaient et rognaient. Leur bouche saignait, ils s'acharnaient en vain. « Prenez mon couteau, leur dit le garçon, vous couperez mieux. » « Merci, lui dirent les gens. » Ils coupèrent sec, ils coupèrent dur. La lame grinça, se brisa. Le garçon gémit.
« Rendez-moi le couteau que m'ont donné qui ?
Les gens de la forge contre un oiseau rouge que m'a donné qui ?
Ma mère, ma mère !»
Les autres lui dirent. « Calme-toi, nous te donnerons un panier d'osier. » Le garçon s'en alla, son panier au bras. Au bord de la route, il vit un grand champ, et dans ce grand champ, des hommes courbés sur la terre. Ces gens emplissaient leurs habits de fèves. Leurs poches crevaient. Par les déchirures, ils les perdaient toutes. Le garçon leur dit « Prenez mon panier !» Le panier fut bientôt plein. On en mit encore, on s'assit dessus pour que tout y tienne. Le panier craqua, se fendit. Le garçon cria le front dans ses mains.
« Rendez-moi le panier d'osier, que m'en donnez qui ?
Les gens des bambous contre un long couteau, que m'en donnez qui ?
Les gens de la forge contre un oiseau rouge que m'a donné qui ?
Ma mère, ma mère !»
Garçon, ne crains pas, lui dirent les gens riant pour tromper sa peine. Nous te donnerons un pot d'huile. Le garçon partit, son pot dans les bras. Le voici venu devant un grand arbre. Cet arbre était blanc. Tronc, branches, feuillage, il était tout blanc. Arbre, tu es pâle, lui dit le garçon. L'arbre répondit, garçon, je suis malade. Je pourrais guérir si tu me donnais de ton huile douce, qui sent bon la vie. Le garçon frotta l'arbre d'huile, puis il s'assit et se mit à chanter à voix forte et triste. Rends-moi le pot d'huile, que m'en donnait qui? Ceux du champ de fèves contre un panier rond, que m'en donnait qui? Les gens des bambous contre un long couteau, que m'en donnait qui? Les gens de la forge contre un oiseau rouge, que m'a donné qui? Ma mère, ma mère! L'arbre lui donna un fagot de branches. Le garçon s'en alla, l'échine courbée sous la charge. Il vit des marchands à l'ombre d'un rocher. Ces marchands cuisaient leur soupe du soir. Mais que brûlaient-ils sous leur chaudron? Leurs souliers, leurs ongles, leurs cheveux, leurs barbes. « Prenez mon bois !» dit le garçon. Ils firent une flambée haute et claire. Quand il ne resta plus que cendre et charbon, le garçon cogna du talon. Sa voix s'éleva, poursuivant au ciel la fumée enfuie. « Rendez-moi le fagot de branches, que m'a donné qui ? L'arbre maladif contre l'huile douce, que m'en donné qui ? Ceux du champ de fèves contre un panier rond, que m'en donné qui ? Les gens des bambous contre un long couteau, que m'en donné qui ? Les gens de la forge contre un oiseau rouge, que m'a donné qui ? Ma mère, ma mère! Voici du sel, dirent les marchands. Tu y gagnes au change. Ils lui en donnèrent un grand sac. Le garçon courut jusqu'au bord du fleuve, goûta l'eau, cracha. Le fleuve lui dit, tu ne m'aimes pas? Fleuve, tu es fade. Garçon, sale-moi et j'aurai du goût. Le garçon versa dans le fleuve une pluie de sel. Quand le sac fut vide, il se pencha et ouvrant les bras à son reflet dans l'eau. Rends-moi le sac de sel, que m'en donnait qui? Des marchands au camp contre un fagot lourd, que m'a donné qui? L'arbre maladif contre l'huile douce, que m'en donnait qui? Ceux du champ de fèves contre un panier rond, que m'en donnait qui? Les gens des bambous contre un long couteau, que m'en donnait qui? Les gens de la forge contre un oiseau rouge, que m'a donné qui? Ma mère, ma mère! Voici mes poissons, lui dit le fleuve. Prends, ils sont tous à toi. Le garçon chargea sur l'épaule son sac ruisselant. Il parvint bientôt dans un beau village. Des esclaves couraient çà et là, poursuivant des rats et des sauterelles. Le garçon leur dit, hey, « Hé, que faites-vous ? Notre chef reçoit 60 étrangers et nous n'avons rien à manger. Nous chassons ces bêtes pour le grand dîner. Homme, menez-moi devant votre maître. » Quand il y fut, « Seigneur, voici de quoi nourrir tes invités. » dit-il en posant sur la table son sac de poissons mouillés. On cria merci, on fit la cuisine, on servit 60 plats sur des feuilles de palme. Quand tout fut mangé, le garçon s'en fut sous l'arbre à palabres. Il joua du pipeau, battut du tambour de danse et chanta ces paroles. « Homme, rendez-moi les poissons luisants, que m'a donné qui ? Le fleuve puissant contre un sac de sel, que m'en donné qui ? Des marchands au camp contre un fagot lourd, que m'a donné qui ? L'arbre maladif contre l'huile douce, que m'en donnait qui? Ceux du champ de fèves contre un panier rond, que m'en donnait qui? Les gens des bambous contre un long couteau, que m'en donnait qui? Les gens de la forge contre un oiseau rouge, que m'a donné qui? Ma mère, ma mère! Que veux-tu, garçon? Demanda le chef. Ta fille en mariage. Prends-la, aimez-vous et soyez heureux. La belle fille en robe dorée, lui-même vêtu d'habits nobles, tous deux chevauchant une jument blanche, revinrent au village où étaient la mère et le frère aîné. Frère aîné, salut, voici mon épouse, je l'ai échangée contre l'oiseau rouge. L'autre en fut si surpris qu'il disparut sous terre. J'ai pris ce conte par l'oreille, je l'ai chauffé dans mes dedans, sur mon souffle je l'ai rendu. Les yeux de l'ami. C'était la fille d'un seigneur. Elle était belle et fière. Son père lui dit un jour, « Ma fille, marie-toi. » Elle fit la fine bouche, puis son œil s'éclaira. « Si je dois prendre un époux, dit-elle, je veux qu'il soit puissant, qu'on l'enferme avec moi dans ma chambre et que de 15 jours, il ne mange rien ni ne boive. S'il parvient au bout de cette épreuve sans avoir un instant gémi, il sera le maître de ma vie. Mais s'il abandonne avant l'heure, s'il défaille, s'il triche ou se plaint, mon poignard tranchera sa tête. »
Fille, tu es digne de moi, lui répondit son père. Il envoya des messagers crier partout dans les villages. Qui veut vivre? Qui veut mourir? Qui veut la fille du Seigneur? Qui veut être l'homme héroïque? 7 princes vinrent en 7 semaines. Aucun ne résista à la faim, à la soif. Ils furent tués. Or, il était un fils de roi, svelte, joyeux et vif comme un aigle. Il avait pour ami un fils de paysan, aussi pauvre qu'il était riche. Ils ne se séparaient jamais. Ils allaient ensemble à la chasse. Ils se baignaient aux mêmes rivières, déjeunaient dans les mêmes plats. Un soir, comme ils campaient loin de la ville dans la brousse, ce prince dit à son compagnon, « J'irai demain tenter ma chance chez les décapiteuses d'hommes. Ami, ta vie m'est précieuse, renonce. Frère, j'irai quoi qu'il m'en coûte. » Devant le feu, jusqu'à minuit, ils restèrent pensifs. Le fils du pauvre dit enfin, « Il me vient une idée, écoute. Dans la salle où tu logeras, place ton lit contre le mur, sous la lucarne. Fais en sorte que celui de la fille soit aussi loin que possible de ce lieu où tu dormiras et que sa servante se tienne près de la porte avec la lampe. Moi, je viendrai toutes les nuits, sous la lucarne exactement. Je ferai un trou dans le mur. Et de dehors, par un bambou que je glisserai dans ce trou, je t'abreuverai de lait. Ainsi passeront 15 jours, aussi tranquilles qu'une sieste. Pour sceller leur accord, chacun au-dessus du feu frappa joyeusement dans la paume de l'autre. Le lendemain matin, le fils du roi s'en alla chez cette fille belle et fière qu'il désirait prendre pour femme. On lui dit, « Entre là. » Il défit son vêtement et déposa son sac sous l'étroite fenêtre. La fille, assise sur son lit, au milieu de la salle, le regarda. Elle lui sourit. Il ne dit pas un mot. Il se coucha et attendit. Vers minuit, il entendit gratter derrière ses épaules. Il vit bientôt sortir un roseau d'un trou rond. Il le mit à la bouche et lui vint un ruisseau de lait. Il but, puis le roseau s'en retourna dehors. La fille, allongée sur le dos, rêvait, les yeux ouverts. La servante dormait près de la lampe. Aucune ne bougea. 14 nuits passèrent ainsi sans anicroche. Vint la 15e nuit. Ce soir, ma servante couchera où tu es, lui dit la coupeuse de tête. Il hésita un instant, puis haussa les épaules, prit son sac et s'en alla s'asseoir près de la porte. La servante, à minuit, sentit le roseau s'enfoncer dans le pli de son coude. Elle vit couler le lait. Elle mit un bol dessous. Dehors, sous la lucarne, le frère serviable entendit cascader un rire aigre. Il se dit, misère, la ruse est découverte. Il prit la fuite sous la lune en trébuchant partout, courut jusqu'à la brousse, et là, tombant à genoux dans l'herbe haute, il appela sur lui la mort. Hélas, dit-il aux buissons alentour, mon ami, à l'aube qui vient, sera décapité. Comment pourrais-je vivre après ce malheur? Qu'as-tu donc à gémir? Dit une voix dans l'air. Il leva le front. Il vit une femme. Son corps semblait de brume. Elle était lumineuse. Elle se balançait un peu au gré du vent. « Quelle beauté » dit-il. « Déesse, qui es-tu ? » « Je suis Dohogua. D-O-H-O-G-U-W-A. J'attendris les peines. Quelle est la tienne, dis-moi ? » Elle l'écouta parler et sangloter encore. Quand il se tut, elle dit, « Je peux sauver ton frère, mais tu devras payer sa vie d'un sacrifice difficile. Demain, si tu le veux, il sera marié. Toi, tu seras aveugle. Déesse, prends mes yeux, que mon ami survive. Même si de ma vie je ne vois plus le jour, je serai un homme content. » La grande dame passa la main sur ses paupières, prit la lumière et disparut. Le lendemain matin, à peine réveillée, la servante sous la lucarne prit le bol recouvert d'un linge, s'en vint à sa maîtresse et la tira dehors. « Ce fils de roi est un tricheur, » dit-elle. « Un jeune homme aussi beau, » répondit la fille, « aussi ferme de cœur, je ne peux pas te croire. Servante, tu te trompes. » « Hélas, non. Chaque nuit, on la nourrit de lait. J'en ai la preuve. Elle ôta la serviette de sur le bol. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche fit haut. Le lait s'était changé en cailloux d'or. Sa maîtresse éclata de rire. « Ah ah ! Servante, dit-elle, quelle menteuse tu es ! Ce fils de roi est le meilleur des hommes. Son cœur est un soleil. Je l'ai su dès que je l'ai vu paraître. » Ce matin même, ils se marièrent. Le prince s'étonna de ne pas voir son compagnon parmi les invités, puis il n'y pensa plus. L'aveugle, devenu pauvre comme un bâton dans la poussière, chemina un an au hasard, tendant la main au bruit de pas et ne trouvant nulle part d'épaule amie. Quand fut passé ce temps, il entendit chanter la naissance d'un fils dans la demeure où vivait le prince. Il pensa, « Quel bonheur ! Je vais écouter rire et babiller cet enfant derrière la maison sans que personne ne me voie. Puis je mourrai avec sa vie en tête. » Il s'avança dans la rue en s'appuyant au mur, parvint à la lucarne où il avait versé 14 nuits durant son lait dans un roseau. Un serviteur sortit, le vit, le reconnut. Il retourna dedans en appelant son maître. « Votre ami de toujours est là, devant la porte, dit-il. Seigneur, quelle pitié ! Il est comme un mendiant, il n'a plus de regard. »« Qu'il entre, dit le maître. » L'aveugle franchit le seuil en tâtonnant. « Approche, dit le prince, approche encore. » Quand il fut à deux pas, « Assieds-toi maintenant. » Il serra son enfant contre son épaule. Son épouse, à son côté, resta droite et muette. L'aveugle s'accroupit sur la natte. Le prince posa son nouveau-né devant lui et dégaina son couteau. Il fendit d'un coup bref la poitrine de l'enfant. Il arracha son cœur et du cœur de son fils, il frotta les yeux morts de son ami. Aussitôt, le revint la lumière. Alors, le frère pauvre, à son tour, prit le cœur, écarta les bords de la blessure et le remit en place. Puis il pinça la peau et lui souffla dessus. Le corps de l'enfant redevint lisse et doux. Sa mère, agenouillée, le coucha dans ses bras et lui tendit le sein. Il se mit à téter goulûment le lait tiède. Fin de la deuxième face de la sixième cassette, Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 267.